Je n'avais aucune expérience de ce que pouvait être une crise sanitaire de grande ampleur. La première vision concrète de ce à quoi cela pouvait ressembler, je m'en suis fait une idée, encore très vague, lointaine, en voyant sur Arte un documentaire d'un journaliste français confiné à Pékin en janvier 2020. On voyait, concrètement, dans le reportage, la réalité de ce qu'était une quarantaine stricte. Des points de contrôle à chaque carrefour, des barrages qui se dressaient au pied des immeubles, d'abord faits de briques et de brocs, puis murés, avec des briques et du ciment, grillagés, surveillés par des vigiles de comités de quartier, des livraisons de nourriture qui se faisaient à distance, en laissant les marchandises à l'abandon au pied des barrages, des rues désertes, des transports en commun fantomatiques, et partout, des silhouettes en combinaison blanche, gantées et masquées, qui prenaient la température de rares passants, en pointant sur eux, visant le front ou le poignet, des thermomètres laser à poignée, aux allures de scanners manuels ou de pistolets à eau. Mais ce que je découvrais là pour la première fois dans ce reportage me semblait être à la limite de la réalité et du fantasme, quelque chose de familier, mais qui ne pouvait avoir aucun lien, jamais, en aucun cas, avec une situation que je pourrais vivre moi-même un jour, à Paris ou à Bruxelles, dans ma réalité quotidienne. C'était comme si j'avais vu un reportage sur la peste noire au Moyen-Âge et que j'avais reconnu certains paysages familiers de Florence, des palais toscans, les rives herbeuses de l'Arno qui se perdaient dans le lointain. Je reconnaissais certes les rues de Pékin, des monuments, des avenues, des entrées de stations de métro, des lieux qui ne m'étaient pas étrangers, mais ce qui s'y passait, les choses qui y étaient montrées, n'avaient et ne pouvaient avoir aucune connexion avec ma vie personnelle. Je ne me sentais pas concerné. Je restais à une distance infranchissable, inconcevable, irréductible de l'événement. La crise du coronavirus semblait encore très lointaine en ces premiers jours de mars 2020. L'Italie n'était pas encore confinée et ne le serait que le 9 mars. La France ne comptait encore que 4 morts et seulement 200 personnes contaminées. Les rues de Bruxelles présentaient leur caractère habituel. Certes, nous avions entendu parler des gestes barrières, c'était quelque chose de connu et qui commençait même à entrer dans le vocabulaire courant. Mais on était loin d'avoir intégré ces nouveaux usages dans nos pratiques quotidiennes. Éviter de se serrer la main ou garder ostensiblement ses distances relevait encore de tocades réservées à quelques paranoïaques qui se munissaient de gants de protection jetables en plastique bleu transparent pour faire leurs courses. Le monde entier n'avait pas encore succombé au « noli me tangere » général qui allait contaminer les relations humaines dans les prochaines semaines. Mais le vent était en train de tourner. De nouveaux rites étaient en train d'émerger dans l'espace public. Ce fut le moment où, pour se saluer le matin sur tous les trottoirs d'Europe, ont commencé à apparaître des pratiques de substitution plus ou moins orthodoxes et les fameux gestes alternatifs, le salut avec le coude, l'inclinaison du torse à distance, la révérence ou la courbette, qu'on ne se contentait d'ailleurs pas de faire normalement, mais qu'il fallait absolument outrer pour montrer qu'on n'était pas dupe de ces simagrées. Je me souviens, place Stéphanie, à l'arrêt du tram 93, avoir observé deux messieurs respectables se saluer du coude. Ils avaient bien décomposé leur geste, ils l'avaient exagérément amplifié et semblaient tous les deux hilares, l'hilarité semblant être un complément indispensable à ce genre de nouvelles salutations prophylactiques. Tout ce cirque et cette hilarité générale disparaîtraient dans les semaines suivantes et se figeraient dans la gravité et l'effroi avec les premières dizaines de milliers de morts.